marge de manœuvre pour vos réactions, pour des questions à Benoît Méronin.
Oui, ou des commentaires ou des réactions.
Oui, bien sûr que je dis des réactions, libre propos. Benjamin Pradel.
Benjamin, on était ensemble.
Bonjour.
Sur...
Oui, je voudrais savoir la différence entre répondre à un besoin et répondre à une attente.
Bah, en fait, le...
Et quand est-ce que ça se transforme ?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, on... bon, y a des... T'as été chercheur, tu l'es encore un peu, mais le... y a des travaux là-dessus depuis 25 ans. Par exemple, quand la SNCF change la carte de restauration à bord, c'est répondre à une attente. C'est-à-dire, les attentes, c'est simplement un niveau, on va dire, d'enjeu moindre pour la personne. Un besoin, ça renvoie à des dimensions anthropologiques. Respecter aussi, alors je parlais du temps, mais l'information sur le temps, mais l'espace aussi. Hein. Quand on s'intéresse au service, j'ai parlé de Fourassier, mais je peux pas résister, je suis obligé de vous parler d'Irving Goffman. Irving Goffman a écrit des choses passionnantes autour de ce qu'il appelle les territoires du moi. Ce qui fait que ce matin, en arrivant, je vous regarde tous là, vous êtes approprié en fait la chaise. Vous avez mis votre veste, alors évidemment c'est plus sympa que de la mettre par terre, éventuellement pour qu'on ne vous la pique pas, on a tous mis un petit quelque chose dessus quand on se déplaçait. C'est ça les territoires du moi, c'est comment on a besoin, l'être humain est comme ça, il a besoin de s'approprier l'espace. Prochainement vous prendrez le train, vous penserez à moi. Le premier acte que l'on fait quand on arrive dans une rame qui est relativement vide, on va se mettre en général tout seul, on va se mettre en général vers la fenêtre, et en général sur le siège à côté on va poser ses affaires. C'est ce qu'il appelle un marqueur. Et un marqueur, c'est quoi? C'est un truc qui marque en fait la frontière. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand la personne qui vient juste d'arriver, la porte s'est fermée derrière elle, et qui vient s'asseoir, qui me demande « Est-ce que cette place est libre ?» En général, on la regarde très machamment, et on lui fait bien comprendre « Oui !» Et on déplace notre sac, et on lui fait bien comprendre que quand même, ça nous embête qu'elle soit là. Ben c'est anthropologique. L'être humain, il a besoin de s'approprier l'espace, il a besoin d'être maître de son temps, et les besoins, en fait, renvoient ces dimensions-là. Alors que les attentes, effectivement, bah, renvoient à des dimensions, on va dire, beaucoup plus marginales, et puis qui peuvent varier dans le temps. Hein. C'est-à-dire que les attentes, c'est des choses qui vont naître aussi. Évidemment, le digital a fait naître de nouvelles formes d'attentes. Mais pourquoi le digital cartonne aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il répond à des besoins anthropologiques. C'est rassurant, tous. Attendez, moi, le premier, on peut toujours être joindre ses proches. Il est hospitalisé loin. Ça répond juste à ce besoin fondamental de rester connecté à nos proches. C'est pour ça que le digital est si présent dans nos vies aujourd'hui. C'est pas parce que c'est pas des gadgets, c'est parce que c'est des choses qui répondent à des besoins anthropologiques. Voilà, besoin, attente. Et c'est important, pardon, quand j'ai le temps, je pose beaucoup plus ça dans le détail parce que je crois qu'on est souvent perdu en fait dans ce discours sur les attentes, les tendances, les modes de vie, les machins. Et je crois que c'est important de revenir effectivement à des fondamentaux et les besoins effectivement autour du temps, autour de l'espace, il y en a quelques autres. Bah, c'est des choses qui nous permettent de ne pas perdre de vue des choses importantes.
Puisque j'ai le micro, je voulais juste apporter un complément.
En vous présentant.
Geneviève Brichet, bonjour. Je voulais juste apporter un complément, parce que c'est en effet une vraie problématique, hein, le besoin et l'attente. Et vu du côté d'une entreprise ou d'une collectivité, il y a eu des études là-dessus, le besoin, c'est le dû, alors que l'attente, la réponse à l'attente, c'est le don. Autrement dit, bon, c'est de la... la moindre des choses pour une entreprise ou une collectivité de faire son boulot, donc ça c'est la réponse à un besoin, en espérant qu'elle répond à un besoin, et puis tout ce qu'elle va mettre autour, qui va faciliter au niveau du confort l'utilisation de son produit ou de son service, eh bien c'est du don, mais on a besoin de dons dans notre société, Dieu merci.
Merci beaucoup. Oui, ben voilà.
Oui, bon, juste quelques commentaires sur l'Académie du service.
Pardon, sur ce que... Bah, je ne vais pas faire de pub ici. On profitera peut-être, je reste déjeuner si vous êtes là. Ou...
Oui.
Voilà, je vous parlerai un petit peu de l'Académie du service.
Non, mais il sera encore là pour déjeuner. Donc...
Ah, par contre, je voudrais faire une pub pour un truc qui est non marchand. Ouais. C'est important. On a créé une fondation de recherche sous égide de la Fondation de France qui s'appelle Service Lab, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Dédié en fait à, et de fondation dédiée à la recherche, donc ça s'appelle Service Lab, elle est sous égide de la Fondation de France, donc c'est des dons, c'est du mécénat recherche. On l'a cofondée avec ERDF et j'espère demain plein d'autres acteurs. On a un colloque annuel, on a lancé des travaux de recherche sur le service. Et sa vocation, c'est de financer des travaux de recherche, des organismes, des thèses, des gens qui peuvent. Donc n'hésitez pas, Service Lab, on est en train de créer le site internet, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse. C'est important et c'est aussi en dire long sur notre maturité sur le sujet puisqu'il n'y avait pas.
Oui. Le micro est au fond là-bas.
Oui, bonjour. Merci pour l'exposé, Adrien Michon. En vous regardant, on se rend compte que, on parlait de tendance tout à l'heure, ça bouge bien, ça va vachement dans cette direction de passer du secondaire au tertiaire. On a parlé du besoin aux attentes. Et moi, je me demande comment la vie servicielle, elle pourra faire mourir des services. Comment il y a des moments où il y a des choses qui vont s'arrêter, parce que ça vient d'être dit, on a besoin de dons, on a envie, tout le monde en a l'attente. Et du coup, je me dis quelque part, là, que ce soit les entreprises ou les politiques publiques, ça fait qu'une surenchère permanente. Comment ça va vivre tout ça ? Mourir surtout.
Je n'aurais pas la prétention de répondre, mais c'est une bonne. Oui, c'est une bonne remarque. Je pense que si j'avais eu une heure et demie, j'aurais dit qu'effectivement, tout à l'heure, un mot important était prononcé, c'est réciprocité. Quand on s'intéresse au service, en fait, on s'intéresse à quoi ? À la relation de service. Et la relation de service, pour que relation existe, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est les philosophes, c'est les anthropologues, il faut qu'il y ait réciprocité. Donc la ville servicielle, c'est une ville du don et de la réciprocité. Indéniablement, et c'est une ville qui est effectivement. Ne pense pas, mais c'est ce qu'on a fait ce matin, ne pense pas simplement en termes de solutions privées, publiques-privées ou publiques, de tout de suite, il y a un problème, tac, on va créer un machin. C'est une ville qui organise, en fait, ses solidarités, qui organise ses réciprocités, ce troc, ses dons. Et à l'échelle d'une grande agglomération comme ici ou ailleurs, évidemment, les potentialités sont extraordinaires. Donc c'est forcément aussi ça, et ben, je crois que c'est bon, voilà, ce sur quoi on a aussi un peu travaillé ce matin, et ce sur quoi vous allez continuer de travailler.
Oui, bonjour, Cédric Zabo, je suis ici en qualité de directeur de l'Association des maires ruraux de France, et quand je vois écrit « ville servicielle », je me dis que il y a beaucoup d'univers qui ne sont pas évoqués ou traités. Donc la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'il y a une réflexion aussi sur, on va dire, les territoires serviciels de manière plus large, qui permettent aussi de traiter la question de la moindre densité de la présence de services. Monsieur, à l'instant, il me tend une perche. Il dit la disparition des services. Le monde rural connaît ça parfaitement. Il y a une forme d'expertise intéressante. Et il y a de l'autre côté donc, l'idée que ces territoires s'aménagent, s'organisent avec leurs modalités, avec une moindre intensité de l'attractivité pour les opérateurs privés ou pour des formes d'intelligence collaborative, même si c'est en train d'émerger plus ou moins fortement par un certain nombre d'initiatives. Donc ça, c'est le premier questionnement. Et le deuxième, qui n'est pas sans lien, c'est qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est un espace assez clos et assez hermétique finalement au flux de tous ceux qui font la ville et qui sont des touristes, des hommes ou des femmes d'affaires qui n'habitent pas le territoire au moment où ils l'utilisent. Et de l'autre côté, évidemment, tous ceux qui viennent travailler de l'extérieur. Comment est-ce que la ville les traite ou ne les traite pas ? C'est une question qu'on peut aussi avoir en tête dans un certain nombre d'instances. Et voilà, ces deux dimensions-là, les autres espaces. Je voyais que Jean Fourastier parlait déjà de la ville servicielle, alors qu'à l'époque, la France était extrêmement rurale. Elle l'est encore beaucoup, hein, à la fois dans sa superficie, y compris en termes de population. Les derniers chiffres d'Eurostat évoquent le chiffre pour la France d'un tiers de la population qui vit dans les zones moins denses. Ces besoins-là, notamment tout ce qui tourne autour du numérique, ont certainement des potentialités tout aussi considérables que celles qui sont aujourd'hui développées dans les villes, d'interconnexion et de tous ces domaines-là. Et c'est un champ, nous, qui nous intéresse fortement pour justement continuer à renforcer l'attractivité de ces territoires qui accueillent de plus en plus de monde.
Très, très rapidement, parce que je pense que nos estomacs vous nous rappelez aussi à l'heure du déjeuner, mais effectivement, le titre de la conférence et des deux journées, c'est la ville servicielle. Donc, je me suis plié à l'exercice. Je serais ravi d'avoir l'occasion de me plier à cet autre exercice qui serait d'élargir effectivement le champ de la réflexion au territoire serviciel. Mais c'est vrai que les travaux ont malheureusement bien montré que le service et la ville, c'est quand même quelque chose qui va ensemble. Et au même titre que l'industrie a fait la ville, la fabrique a fait la ville a fait la fabrique, enfin. Il y a un rapport comme ça extrêmement, extrêmement cumulatif et la ville, effectivement, et les activités tertiaires ont plutôt tendance effectivement à naître et à se centraliser, effectivement, à se polariser. Après, vous touchez un sujet, si j'avais eu le temps, on aurait parlé de Laurent Davzy, qui est quelqu'un qui est bien connu hein, dans vos cercles, mais effectivement, cette déconnexion aujourd'hui entre le lieu où l'on vit, le lieu où l'on travaille, le lieu où l'on consomme, qui évidemment me parle bien. Moi, j'ai coutume de dire, finalement je suis un vrai Lyonnais, quoi. C'est-à-dire que ceux que j'intéresse le plus, c'est les collectivités ici, parce que c'est ici où je vis et c'est ici où je paie l'impôt. On paye mon salaire à Paris, on paye mon salaire à Grenoble, mais j'y vis pas et j'y consomme très très peu en fait. Et donc évidemment, je suis pas un cas isolé. Il y a des tas de gens qui sont encore plus pendulaires que moi, qui vivent effectivement dans le Nord-Isère et qui viennent travailler tous les jours ici à Lyon ou inversement. Enfin bref. Donc là aussi, ça pose des sacrés problèmes. C'est à la fois qui capte, parce qu'il faut quand même aussi parler de recettes et de revenus, qui capte les revenus. Et finalement, il y a des vrais sujets. Laurent Davzy les pose avec tout le talent et le côté un peu provocateur qui le caractérise. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Comment on est ou pas, effectivement, complice, partenaire ? Comment on aménage ? Comment on aide, effectivement, ces flux qui sont des vrais sujets ? Il n'y a qu'à voir, effectivement, tôt le matin, hein, les flux de voitures là, qu'il y a entre Lyon et Grenoble, c'est juste fabuleux. Et puis les gens dans le train très, très tôt. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, cette question des flux et de comment on les traite. Je pense que c'est des sujets entre là où l'on vit, là où l'on travaille, là où l'on passe consomme ses loisirs. C'est effectivement des questions qui sont assez peu finalement, sauf en termes d'attractivité, d'avoir plutôt la préférence pour venez vivre ici, venez payer l'impôt ici, à travers les grands centres de loisirs marchands, si je puis dire, en tout cas de consommation, je pense à Vaulx-en-Velin-la-Soie ici à Lyon, d'attirer aussi la périphérie sur le territoire pour qu'elle vienne consommer ici plutôt qu'ailleurs. Bon. Voilà, c'est très très beau sujet sur lequel on mériterait qu'on s'y attarde.
Une dernière intervention, allez-y.
Oui, bonjour, Sylvie Château. Vous avez évoqué dans votre présentation le marketing et le service de la ville d'Évry concernant l'eau. Quelle différence faites-vous entre la ville servicielle et le marketing à proprement parler des services ?
Ah, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si la ville servicielle, c'est vraiment un concept en fait aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas certain qu'il y a sûrement eu des publications évidemment diverses et variées autour de ça. Est-ce qu'on a conceptualisé autour de la ville tertiaire ou la ville servicielle ? C'est une bonne question. Après, moi je pense que c'est le marketing, c'est une démarche, c'est une boîte à outils, quoi. Voilà. La ville servicielle, pour moi, c'est beaucoup plus englobant, quoi. C'est une philosophie, c'est un mode de pensée, c'est beaucoup plus large. C'est pas une boîte à outils. Après, elle a effectivement au service, à mon avis, de la ville servicielle. Il y a le marketing des services, il y a le marketing territorial, il y a effectivement le design de service, il y a quantité d'autres choses. Et après, c'est intéressant de se dire, c'est quoi la boîte à outils finalement qui peut nous permettre de mieux penser et de mieux construire la ville servicielle, c'est-à-dire une ville qui se pense comme étant d'abord une somme de services, l'espace public étant le premier d'entre eux, pas simplement le support de services, mais un service en tant que tel, et comme sans doute le plus puissant Google, puisque la somme des villes du monde sont sans doute le plus grand portail de services dont on dispose. Et moi, je suis toujours frappé de voir à quel point la ville est un extraordinaire portail de services et d'expériences, mais qui ne s'assume pas aujourd'hui complètement comme tel. Et je pense qu'il y a encore un vrai cheminement à faire, en fait, en termes culturels. Donc pour moi, la ville servicielle, c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est pas qu'une somme d'outils, c'est un mode de pensée sur la ville qui tient compte à la fois d'évolution dans les modes de vie, d'évolution aussi des modèles économiques. Hein. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'industries, de plus en plus d'activités tertiaires. C'est des schémas de pensée qu'il faut renouveler, en fait.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà.
Merci.